Bonjour à tout le monde. Merci pour le groupe Louange. J'essaie de m'appliquer à parler au micro. Alors faites-moi des clins d'œil si vous voyez que je suis un petit peu à droite, à gauche, mais pas au centre. Persévérer, c'est le thème que j'ai choisi ce matin, que j'ai pris ce matin. Se donner les moyens de choisir. Le thème de la persévérance nous renvoie au thème de se donner les moyens de choisir. Du coup, de faire le nécessaire, de mettre en œuvre, de se mettre en mouvement pour tenir son choix. Et du coup, aussi, des thèmes possibles, c'est de chercher à s'épauler. Être déterminé, c'est donc persévérer dans tous ses moyens pour tenir nos choix. Le livre des Hébreux est un texte justement écrit à des destinataires judéo-chrétiens qui ne sont plus déterminés, ils doutent et sont tentés de revenir au judaïsme. Le texte que nous lirons ce matin se trouve dans Hébreux 13, texte sur lequel j'ai déjà prêché à Saint-Genis, le 1er septembre. Mais vous y gagnez, j'ai raccourci mon texte. C'est ma belle-sœur qui m'a dit « Sylvie, si vous la voyez ». Mais avant de lire ce texte, j'aimerais balayer un peu les intentions de l'auteur dans celui-ci. D'après les commentateurs, la lettre aux Hébreux pourrait bien être adressée à la communauté chrétienne de Rome. Ces chrétiens seraient d'origine juive. Ils ont perdu courage et risquent de ne pas persévérer dans la foi. L'auteur, qui pourrait être Apollos, oppose ce que les destinataires de l'Épître sont actuellement et ce qu'ils ont été. Hébreux 10, 32, 34, un exemple de ce qu'ils ont été, je lis. Hébreux 10, 32, 34, un exemple de ce qu'ils ont été. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison. Et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Voici maintenant un exemple de ce que l'auteur dit, de ce qu'ils sont devenus. Paresseux. Chapitre 5, verset 11. Vous êtes devenus lents à comprendre. Nonchalants. 6, verset 12. Leur enthousiasme pour la foi n'est plus qu'un lointain souvenir. Ils ne progressent plus et sont tentés par de nouvelles doctrines. Chapitre 5, versets 12-14. Ils font l'église buissonnière. 10-25. L'auteur, donc, dans ce livre, a pour but d'encourager, exhorter, fortifier, redresser. Il prend soin de redécrire les deux tableaux sur lesquels ils ont déterminé leur choix de vie dès le départ. Le premier tableau, qui est en fait le nationalisme juif, c'est la première alliance faite avec Moïse. Le culte, l'adhésion à un système bien ficelé. Le deuxième tableau, lui, est une alliance ouverte. Alliance où chacun est appelé à s'engager par la foi. Alliance exprimée et signifiée avec Abraham, mais se réalisant dans la personne de Jésus-Christ pour atteindre les premiers chrétiens, les judéo-chrétiens, les romains, les grecs et puis nous-mêmes. Pour le premier tableau, le tableau de la première alliance, l'espérance juive est une espérance au Fils de l'homme qui interviendra à la fin des temps pour le jugement. Le deuxième tableau, celui de l'alliance en Jésus-Christ, Jésus, anticipe le jugement de l'espérance juive, et cela en annonçant une bonne nouvelle, une grâce pour tous, une remise à zéro des compteurs pour ceux qui croient. Jésus pardonne le pécheur. Jésus anticipe déjà le royaume dans ce deuxième tableau. L'auteur donc exhorte et encourage en rappelant la supériorité de l'œuvre de Jésus-Christ par rapport à l'alliance conclue avec Moïse. En effet, les destinataires de cette lettre aux Hébreux, les Juifs convertis, je l'ai déjà dit, sont tentés à revenir au culte juif, donc à la première alliance. Alors que le livre des Hébreux se veut exhorter, encourager des judéo-chrétiens qui sont tentés de revenir au judaïsme, l'auteur, au chapitre 11, trouve nécessaire de le faire aussi, en faisant un tour d'horizon de l'histoire, citant depuis Abel jusqu'aux prophètes, en passant par Abraham, Moïse et Rahab. Il le fait pour argumenter que la foi n'est pas nouvelle et qu'elle est antérieure à la loi, donnée à Moïse. C'était une foi en Dieu qui donnerait une meilleure patrie, une patrie céleste. Hébreux 11, verset 6, verset 16. L'auteur donc les cite aussi pour nous les donner en exemple, un témoignage pour nous, un témoignage de leur foi. C'est avec eux que nous parviendrons à la perfection en Christ, nous dit-il, chapitre 11. Avec cette promesse que tous, si nous persévérons dans la foi, nous vivrons. L'auteur parle en fait dans ce chapitre 11 d'hommes et de femmes qui ont en commun leur foi en Dieu. L'auteur parle ici du peuple que Dieu s'est acquis, de la communauté des saints, des générations passées. On a aimé vendredi soir que héritage rechante ces vieux chants. Hein, on s'est retrouvés, ça nous a rappelé notre histoire. L'auteur, en quelque sorte, dit qu'en devenant chrétien, les destinataires de la lettre ne se coupent pas de leur histoire, mais qu'au contraire, ils rentrent dans cette histoire du peuple de Dieu qui traverse tous les siècles. C'est pour ça que j'aime bien ce chant « Ils ont marché le long des siècles ». Voilà, j'ai donné la source. Ils sont dans l'héritage. Persévérez donc. Et cette lettre, qui nous est aussi destinée, nous permet de nous approprier cette histoire et de la faire nôtre. Elle fait partie de notre héritage pour nous aussi aujourd'hui. Donc je parle de l'histoire de tous ces siècles passés. Marc 12, versets 26 et 27, Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson ?« Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Hébreux 12, verset 11, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à perfection. » C'est donc un encouragement pour nous à réaliser que l'on ne peut pas avancer seul, coupé de toute identité, de toute histoire, coupé de toute communauté. Un cycliste fera de meilleurs résultats s'il court avec un ami. La motivation, la persévérance ne sera pas la même. Et puis, s'il mord à vélo, il va aller se renseigner sur les résultats passés. Et puis, tout doucement, dans son cœur, il fera partie de la famille des cyclistes. Est-ce qu'il y a des cyclistes ? Alors, cela engage, cela nous responsabilise. Il s'agit d'être prévoyant. D'être prévoyant pour soi-même d'abord, persévérer, faire partie de la communauté, c'est d'abord être prévoyant. Prévoyant pour soi-même, puisque ma persévérance se retrouve renouvelée et gonflée lorsque je suis entouré de frères et sœurs en Christ. Mais pas seulement. Je deviens moi-même un soutien pour vous. Et vous pour moi. Et du coup, on revient à l'image d'être serviteurs les uns pour les autres. À ce moment vient notre texte. Alors, à la première lecture de mon texte, j'ai un peu boudé. C'est un texte donc que je m'étais imposé un peu parce qu'il faisait partie de la lecture du jour du dimanche 1er septembre. Et puis, après avoir lu les 12 premiers chapitres, je suis un peu resté scotché par ce texte. Parce que ce texte que nous allons lire, il y a quand même pas mal d'impératifs. Mais je vous propose de lire ce texte. Hébreux 13, 1 à 8. Et puis on lira aussi les versets 15 à 16. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 8. Et on lira les versets 15 à 16. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je dis donc que ce texte est un texte que je n'aurais pas choisi tout seul, comme ça. Et pourquoi? Parce que je crois que ces impératifs, persévérez, n'oubliez pas, souvenez-vous. Moi, je suis un peu allergique à ces impératifs, et je crois que ça remonte à l'histoire de mon père. Mon papa était policier, et puis à la maison, il y avait beaucoup d'impératifs. Et puis du coup, je suis un peu allergique à tout ce qui est policier, douanier, pardon s'il y en a là. Mais bon, je me soigne, et puis... Quand je suis arrivé dans la région avec tous les douaniers qui m'arrêtaient sans arrêt, j'avais l'impression qu'ils m'agressaient, mais bon. Certains ont eu des remarques, mais j'ai progressé. Alors voilà, il y a pas mal d'impératifs dans ce texte, mais bon, j'ai laissé de côté mes préjugés. Et puis si l'auteur insiste sur les impératifs, ce qui est lié à urgence. Alors, je sais où j'en suis. Il y a urgence. Ici, l'auteur étudie des impératifs parce qu'il y a urgence. Et alors, on passe sur nos préjugés, je l'ai dit. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. J'ai dit donc qu'il y avait urgence. Et puis, Hébreux chapitre 12, verset 14, l'auteur, je le cite, rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Il est un peu grave là quand même, l'auteur. Hein. Un peu dur comme parole. Mais à mon avis, ce sont les implications de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'attendre dans le message de Jésus-Christ à autre chose? Je reviens un petit peu sur les croyances de l'époque de Jésus. Les croyances de la venue du Messie dans la tradition juive, chez les pharisiens, chez les docteurs de la loi, était attaché, je l'ai dit tout à l'heure, au jour du jugement. Malachie, chapitre 3, verset 23, dit que ce jour est grand et redoutable. Sophonie, chapitre 1, 14 à 18, décrit ce jour un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres, un jour de nuages et de brouillards. un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Et dans ce contexte-là, dans cette tradition-là, dans cette attente-là, Jésus lui s'impose en annonçant une bonne nouvelle, une nouvelle de la grâce. Il pardonne les péchés. Vous imaginez, dans cette tradition, Jésus pardonne les péchés. Il enseigne que c'est par la foi seule que cet acte prend valeur. Jésus anticipe le jugement et proclame une libération. Il efface l'ardoise pour ceux qui croient. Pour ceux et celles qui reçoivent ce message et deviennent témoins de la libération dans leur vie, ne peut être, à mon avis, que devenir des disciples qui libèrent autour d'eux. Hébreux 12, verset 14. Ouais, je l'ai lu. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Jésus nous libère et nous sommes appelés à libérer autour de nous. Mais à mon avis, cela n'est pas tout. C'est au travers du créé que Dieu veut nous rencontrer, que Dieu veut nous communiquer. Il utilise nos émotions, notre toucher, nos mains, nos bras, nos paroles. Il utilise la vue. En d'autres termes, il utilise nos relations pour nous rejoindre à chacun d'entre nous. Il nous utilise les uns les autres pour ne pas nous laisser seuls, ne pas nous abandonner, pour nous réjouir, pour nous encourager, pour nous donner de progresser, d'arrondir nos caractères, pour annoncer aussi un jour de grâce, un temps de grâce, mais aussi un jour de jugement pour ceux qui s'en seront moqués. En d'autres termes, Jésus nous demande d'être ses mains, d'être ses pieds, d'être sa bouche. Et il le demande pour rejoindre justement le créé que nous sommes, dans notre entité totale, nos émotions. Et puis ça ne veut pas dire que Jésus ne nous rejoint pas seul dans notre chambre, non. Je propose de lire Luc chapitre 12, verset 27. Choisis ce passage pour décrire un peu ce que Dieu veut dans nos vies. Quand je parle que Dieu veut que nous soyons ses mains, ses bouches, sa bouche, ses pieds, son cœur. Luc chapitre 12, verset 27. Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Dieu habille aussi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu. Il le fera d'autant plus volontiers pour vous, pour moi, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Je vous propose ma transcription de ce texte. Ainsi, raccourci, attendez, moi je pourvois à vos besoins, je pourvois aussi à tes besoins, Philippe. Vous, toi, Philippe, occupe-toi de mon royaume en étant mes mains, en étant mes pieds, en étant ma bouche. Soyez mon cœur qui aime. Et j'aimerais pour donner un petit témoignage personnel pour illustrer ça. Alors que je participais au programme Torrent de vie dans le sud de Paris, lors d'un temps de prière, donc c'était à Viviers, en sous-Paris, un équipier, un responsable du petit groupe, on était par petit groupe, donc ça faisait 5-6 séances déjà qu'on s'était rencontrés, et ce responsable du petit groupe m'a dit Philippe, donc on était souvent en temps de prière, m'a dit Philippe, le Seigneur me montre que je dois te prendre dans mes bras. Et puis ça m'a touché parce qu'on était cinq comme ça et c'est pas évident d'entendre dire que le Seigneur me montre que j'ai envie de que je dois te prendre dans mes bras. Et pour moi ça m'a rejoint plus profond de moi-même parce que ça me parlait, ça me rappelait, ça venait me rejoindre au niveau de mes blessures par rapport à mon père. Et je crois que ça, c'est, je veux le citer cet exemple pour le donner en témoignage que Dieu fait dans nos vies, au travers de nos relations, au travers de nos paroles qu'on se partage. Dieu nous rejoint. Dieu nous rejoint dans le cri, dans ce que nous sommes, dans nos émotions. Alors peut-être c'est un exemple un peu fort, mais je crois que si nous avons besoin des uns des autres et si Dieu veut se servir de nous, c'est justement pour continuer à nous construire, à nous faire grandir. Il est donc clair que l'auteur ici de ce texte pourrait être Apollos. Donc il est donc clair que l'auteur de ce texte, qui pourrait bien être Apollos, ne pouvait pas faire l'impasse sur ses impératifs. Les impératifs du chapitre 13, pour notre persévérance à nous et pour nous voir de grandir aussi. Et je vous propose maintenant de voir en plus près les thèmes abordés dans ce texte. Donc toujours Hébreux 13, 1 à 8. Le premier thème abordé est l'amour fraternel. Hein, après toutes 12 chapitres où il nous encourage à persévérer, voilà qu'il nous parle d'amour fraternel. Amour fraternel qui se conduit comme un frère, qui se conduit comme une sœur. J'ai été voir sur le dictionnaire parce que des fois on raccourcit. Hein. Bien souvent, nos relations se limitent, et pour moi, je le fais souvent, « Salut, bonjour, comment ça va? Tu vas bien ?» Et puis voilà, on se sauve, je me sauve. Non. Non, Dieu veut qu'on persévère. Dieu veut que je persévère aussi dans ce domaine, dans les relations que j'ai avec vous. L'amour fraternel va à l'encontre de apprendre à connaître, apprendre à être sœur, apprendre à être frère. Avec quelqu'un qui n'est pas frère, avec quelqu'un qui n'est pas sœur. Parce que Christ est notre grand frère à chacun d'entre nous et qui nous unit. On trouve aussi le thème de l'hospitalité. J'ai encore été voir le dictionnaire. Fait de recevoir quelqu'un sous son toit. De le loger gratuitement. Et en plus, l'auteur ici, il fait une remarque pour spécifier qu'il parle d'hospitalité envers ceux que l'on ne connaît pas en disant « Car en l'exemple, en l'exerçant, quelques-uns, alors ainsi, ont logé des anges. » Donc dans ce petit raisonnement, alors c'est vrai qu'il parle de, je crois qu'il parle d'Abraham et puis de Lot, mais il parle qu'en fait de compte que l'hospitalité, c'est aussi envers des gens qu'on ne connaît pas. Donner l'hospitalité à un non-croyant, à une non-croyante. C'est le reconnaître comme issu du même Créateur, du même Dieu. Reconnaître un Tunisien, reconnaître un Libyen, reconnaître un Suédois, c'est le reconnaître comme la même personne créée du même Créateur. N'est-ce pas, quelque part, le considérer déjà comme un frère et que lui aussi est concerné par cette bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. Au même titre que Dieu lui tend la main, eh bien, nous voulons, chacun d'entre nous, aussi lui tendre la main. Le verset 3, le thème des prisonniers et maltraités, un appel à la solidarité. C'est un bon thème, ça, pour la crise, hein. Un appel à la solidarité. Mais Jésus nous appelle à cette solidarité, et l'auteur aussi. Invitation à vivre comme frères et sœurs. Dans la séparation, hein, la distance entre la prison et nous. À la souffrance. Le verset 4, le thème de la sexualité. On n'aime pas trop parler de ces thèmes-là. Hein. Dans la relation, dans l'intimité, on est caché. Hein. Non, non, avec Dieu, on n'est pas caché. Hein. Dieu nous appelle aussi dans l'intimité à avoir un témoignage. Le témoignage de son amour dans nos vies, son empreinte dans nos vies. Hein. Ouais, un témoignage à vivre et à témoigner de vivre transformé. Les relations dans l'intimité, dans le lit conjugal, sont aussi appelées à être porteuses d'un témoignage en la foi du Christ. Avec rappel que nous sommes tous responsables de nos actes, responsables de nos choix et du coup d'un jugement possible. Le verset 5, un autre thème, le rapport à l'argent. Contentez-vous, faites avec ce que vous avez, soyez satisfaits. Un autre terrain à conquérir au témoignage de notre foi en Christ. Un autre terrain où on doit persévérer. Où je dois persévérer, parce que je me mets le premier là-dedans. Hein. Définition du verbe être reconnaissant. Alors j'ai bien apprécié sur le dictionnaire ce qu'ils disent. Ils disent, alors en troisième définition, ils disent que c'est une définition qui est rare. Alors on a du boulot hein, pour arrêter qu'il soit rare. Témoigner témoigner par de la gratitude, que l'on est redevable envers quelqu'un, que l'on est redevable envers quelque chose. Hein? Être redevable de ce que l'on a déjà. Être redevable à Dieu. Hein? Ne pas vivre la peur, l'angoisse du manque. Oser le partage, hein, quand nous on manque de rien ici, donc on peut peut-être oser la foi dans le partage. Revêtir le vêtement de l'assurance, que l'on ne sera pas délaissé, ni même abandonné. Hein, parce que ça, là, on le lit, hein, tout, on le lit souvent, ça revient, mais et puis il faut le vivre ça. Et puis je dois le vivre aussi, l'apprendre à le vivre. Le verset 6, un principe en toute chose. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Ouais, mais bon, on veut prier pour les Égyptiens, d'accord, hein, pour qu'ils soient fortifiés dans cette phrase pour eux, « Que peut me faire un homme ?» Et on veut prier pour eux, hein, et les soutenir, parce que c'est facile hein, de le dire là sur l'estrade. Mais voilà, Seigneur, on te prie pour les Égyptiens. Il y a donc une assurance, une confiance à intégrer en tant que chrétien, une réalité nouvelle en Jésus-Christ, une connexion à prendre en compte. Un apprentissage, c'est que nous ne sommes plus dans le désert. Nous ne sommes plus dans le désert. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, c'est pour chacun d'entre nous. Pas facile d'intégrer cette réalité nouvelle en Jésus-Christ quand on est dans une société individuelle. Hein, on a tous nos propres assurances, nos propres garanties et tout le reste. Et que nous vivons chacun pour nous. Une phrase qui m'est restée, comme on l'a dit, il y a pas mal d'années, que j'ai pris comme phrase pour m'assurer qu'il fallait que je continue dans mon individualisme. On m'avait dit, Philippe, si tu es dans le désert, comment tu ferais? Eh bien, débrouille-toi. Mais je me suis construit autour de cette phrase, en voulant dire que j'ai besoin de rien d'autre que de moi-même. Eh bien non, en tant que chrétien, cette phrase, on peut les déconstruire. C'est faux. On n'est plus tout seul en Jésus-Christ. Et de vrai, Luc 12, verset 23. La vie est plus que de la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier. Le verset 7, le thème des mentors, des conducteurs et des anciens au travers desquels les fondements de la parole de Dieu sont transmis. Persévérez aussi à se souvenir de nos conducteurs. L'auteur pourrait faire référence à l'apôtre Pierre, qui à cette période-là, dans les années 64-65, aurait été crucifié aussi. Souvenez-vous de vos conducteurs et souvenez-vous de combien ils ont été persévérants et de leur foi. C'est dans un sens un appel à trouver encouragement dans les modèles des anciens parmi nous, de ceux qui nous ont quittés, mais aussi des anciens de quand on a lu Abraham, Noé, David, tous ces anciens-là dans la Bible qui font partie de notre histoire. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, verset 8. Et c'est bien pour ça que nous pouvons persévérer ensemble et persévérer aussi avec cette assurance que Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, nos relations changent, hein, nos états d'âme changent, mais Jésus, lui, ne change pas. Par Christ, verset 15, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Verset 16, n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je ne sais pas où on en est ce matin, vous en êtes, mais les destinataires de cette lettre avaient besoin d'entendre ce message. Tour à tour, à des moments de nos histoires, nous avons besoin de nous l'entendre dire. Persévérer dans le bon choix est une persévérance dans la foi qui s'inscrit dans l'histoire comme nous le voyons dans la lettre aux Hébreux. Persévérer est une persévérance à l'imitation de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Une persévérance à faire du bien, à s'entraider. L'idée de persévérer, de tenir ferme, nous donne à penser à une marche avec un point de départ et un point d'arrivée. Et cela reflète bien le contenu de notre engagement le jour où publiquement, où nous avons connu Jésus-Christ, où nous sommes engagés, nous sommes passés par les eaux du baptême et que nous avons témoigné. Il y a des moments donnés dans nos histoires, suite à des moments difficiles, des divorces, des échecs financiers, puis chacun peut mettre quelque chose derrière, où nous sommes fragiles, où quelque part ces deux tableaux de la première alliance et la deuxième alliance, ces deux tableaux de suivre Christ ou d'abandonner Christ, et bien on ne sait plus très bien où on les voit, ils sont flous ensemble. Et puis certaines personnes qui, suite à un événement difficile, ont du mal à accepter de se voir s'effondrer. Ils étaient tellement forts. Non, moi je ne veux pas me sentir fort en Jésus-Christ. Je veux refuser ça, ouais, j'étais fort à des moments donnés de mon histoire. Je croyais pouvoir m'en sortir, mais je ne veux plus me sentir fort. Et je peux avoir peur un jour d'avoir demandé à avoir de l'aide, un frère et une sœur. Construisons donc en Église des amitiés, des espaces d'intimité, où on peut partager, des espaces de confiance, où la honte n'a pas sa place. Travaillons aussi à faire tomber ces belles apparences sur nous-mêmes, qui nous donnent d'être bien souvent inaccessibles. Nous voulons nous libérer de tout masque, nous voulons persévérer. Bien souvent, nous sommes devant des choix qui coûtent. Et puis, on peut penser aux choix... Bien souvent, nous sommes devant des choix qui coûtent et nous avons du mal à voir que nous sommes dans des situations, la même situation que les Hébreux. Oh Seigneur, on avait des bons oignons en Égypte. Vous en souvenez de ce texte-là? Mais ils ont complètement oublié qu'ils étaient esclaves là-bas. Des fois, on est dans ces situations-là. Les choix qui coûtent révèlent notre grandeur en Christ. Alors peut-être qu'il y en a qui ne vont pas apprécier cette phase, notre grandeur en Christ. Mais moi je le dis bien haut ça. Les choix qui coûtent révèlent notre grandeur en Christ. Et ce que nous sommes devenus en lui. C'est toujours laisser une partie que l'on aurait tellement choisir. Choisir Christ, c'est aussi quelque part laisser tout un côté qui nous fait plaisir. Qui nous apporte du plaisir, mais un plaisir qui a un goût amer. Et puis on n'a pas envie d'y revenir à ce goût amer. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ ce matin. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous appartenons à cette grande histoire. Nous appartenons à la communauté de Prêves-Saints ce matin. À la communauté de l'Église, de la grande Église. Offre donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement choisir lui appartenir. Dire ensemble publiquement que nous choisissons d'appartenir à Christ, c'est dire quelque part que nous faisons ensemble partie de cette famille. Je propose de prier, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour... parce que tu as trouvé bon, Seigneur, au travers de cet auteur, d'encourager, Seigneur, les destinataires de cette lettre aux Hébreux. Seigneur, en leur rappelant, Seigneur, leur histoire, en leur rappelant les premiers tableaux de leur choix, mais aussi en leur rappelant de travailler à cet amour fraternel et de travailler à vivre dans les relations. Merci, Seigneur, parce que cette lettre nous est aussi destinée. Nous appartenons à ce peuple. Tu as bien voulu de faire chacun d'entre nous ton peuple, Père. Seigneur, on veut se rappeler, Seigneur, qu'on n'est pas fort. On veut se rappeler, Seigneur, qu'on est fragile et que nos choix, bien des fois, Seigneur, sont flous. Seigneur, ces deux tableaux de choix sont flous, Seigneur. Non, on ne veut pas rester, Seigneur, sur ce terrain-là, Seigneur. Mais on veut, Seigneur, dans la communauté entre nous, Seigneur, construire, Seigneur, et être persévérant, Seigneur, et à dire c'est toi, Seigneur, qu'on veut, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qu'on veut qu'il soit le maître de notre vie. On veut que tu sois le maître de notre vie, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, peut-être, Seigneur, ici, il y a des personnes peut-être qui sont dans ce cas où les deux tableaux sont flous, Père. Seigneur, on veut leur dire à ces personnes, Seigneur, qu'elles ont de la valeur pour toi, Père, que toi tu les aimes, Seigneur, mais que nous aussi on veut les aimer, Père, et qu'on veut s'appliquer, Seigneur, à les encourager, s'appliquer, Seigneur, à prendre du temps pour elles, Père. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'il est bon d'appartenir à ce peuple nouveau, un peuple, Seigneur, où on veut, Seigneur, être dans cette humilité, Seigneur, et pas arriver sur nos grands chevaux, non, Seigneur. Seigneur, sois loué, béni, Seigneur. Amen.
Alors bonjour à chacune et chacun. Merci aux participants pour ce qu'ils nous ont apporté pour ce culte. Avant de partager les annonces, juste une première information d'une naissance qui s'est passée cette semaine chez Sandy et Elodie. Lina. Oui, les photos, c'est pas évident d'avoir un bon contraste. Mais on se réjouit pour eux, ça s'est bien passé, c'était jeudi matin. Les annonces du programme de la semaine. Mardi 17, à 20h, une rencontre pour la préparation de la fête de Noël. C'est vrai que Noël, c'est dans un petit peu plus de 3 mois, mais pour des questions de disponibilité de salle, notre fête va se dérouler le dernier jour de novembre. Sympa ça, une fête de Noël en novembre. Pour le coup, il faut quand même qu'on y réfléchisse un petit peu. Alors on vous invite à venir participer à cette première rencontre avec des idées, peut-être des choses simples à mettre en place et à développer, parce que c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais venez avec de bonnes idées donc à 20h. Samedi, le groupe de jeunes. Dimanche prochain, culte de partage. D'habitude, les cultes de partage, vous savez, c'est les 5e dimanche. Mais le dimanche d'après, donc le 29, c'est Jacques Yosti qui va nous apporter le message. Donc pour lui, c'était le 29 ou pas du tout. Donc il viendra le 29 et pour le coup, on a avancé d'une semaine le culte de partage. Donc préparez de quoi partager pour dimanche prochain. Et puis, après le culte, on va partager un pique-nique. Donc, on mangera encore ensemble après le culte pour avoir un temps fraternel ensemble. Et puis, pendant le culte de dimanche prochain, ça va aussi être la reprise de l'instruction religieuse. Donc, pendant justement le temps de louange, le temps de partage. Ensuite, la semaine d'après, le samedi 28, reprise d'explosion de louange. À 17h, donc ce sera ici dans cette salle. Alors, comme toute chose qui reprend, il y a parfois des nouveautés ou des choses qui changent. La première chose, c'est le fait que chaque participant peut participer à choisir les chants aussi. Par contre, il faut communiquer les chants avant le jour de l'explosion de louange, évidemment. Donc vous pouvez le faire par les moyens que vous voulez, auprès de Thibault ou des autres responsables. Et puis une autre information, peut-être une nouveauté, pour cette rencontre, il y aura un groupe des îles, donc ukulélé et cheveux noirs au vent. Donc voilà. Je vous rappelle aussi la deuxième partie du séminaire sur la prière. Donc sur le sujet de la prière communautaire qui se tiendra le 5 octobre, donc de 9h30 à 18h30. Il n'y a pas encore le tableau pour s'inscrire au fond de la salle, mais vous pouvez le faire en ligne par le biais du site. Et puis ce sera là promis pour dimanche prochain. Oui, il y a une garderie, oui. Maintenant, je vais laisser la place à Anne-Marie, qui va nous parler d'une pétition, oui.
La réunion des aînés, mardi à 14h30.
Ce mardi, ok. C'est juste, Alfred, oui, ok, merci. Ah, ça nous avait échappé, désolé. Je vais laisser la place à Anne-Marie, qui va nous présenter une pétition qui est organisée par Portes Ouvertes.
Oui, alors c'est une pétition pour les chrétiens de Syrie. Ce qui a commencé en mars 2011 comme un cri pour la liberté a dégénéré toujours plus en une guerre sanglante et confuse. Piégés sur tous les fronts, les chrétiens sont parmi ceux qui souffrent le plus dans cette guerre. Ils ne prennent parti ni pour le régime ni pour les rebelles islamiques. Mais ils sont souvent victimes d'enlèvements ciblés, orchestrés par les islamistes. Ils subissent une hostilité intense quand ils sont dans des camps de réfugiés. Leurs maisons sont confisquées dans des proportions démesurées. Et pour cela, Portes Ouvertes organise une pétition en espérant récolter 1 million de signatures à l'échelle mondiale pour, qui sera adressée aux Nations Unies et à l'Union Européenne. Alors, j'ai mis au fond de la salle le texte pour lequel nous pouvons signer. Il s'agit donc de signer pour protéger la vie, la subsistance, la liberté de chaque personne en Syrie, de sauvegarder l'existence de la communauté chrétienne et de mettre fin aux actes de violence sous toute forme, garantir à l'ensemble de la population un accès sûr et juste à l'aide humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie, permettre aux chrétiens syriens de rester dans leur patrie ou de séjourner en sécurité. Oui, parce qu'il y a vraiment un désir d'expulser les chrétiens de leur pays. Donc, on a parlé de persévérance ce matin. C'est quelque chose qu'ils sont en train de vivre. Créer des conditions qui permettent aux chrétiens de pratiquer leur religion librement, de prendre soin des nécessiteux. Ils ont très fort ce sentiment de, comme dans le passage que nous avons lu, d'être utile à leurs concitoyens et de participer aux efforts pour la paix. Et assurer que la société et la constitution d'une nouvelle Syrie respectent le droit à la liberté religieuse. Alors voilà, je vous aurai des feuilles de pétition pour la France et j'en mets aussi une pour ceux qui résident en Suisse, parce que j'ai reçu les deux. Voilà.
Voilà, merci. Oui, c'est important de signer sur des feuilles différentes en fonction de votre lieu d'habitation, parce que Portes Ouvertes a l'intention de présenter, de faire valoir cette pétition auprès des Nations Unies, auprès des instances européennes, mais aussi auprès des politiques locales. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de faire la différence. Nous avons reçu aussi, par le biais de Brian, des salutations de la famille Haddad. Vous rappelez donc le papa de Sarah, et ils étaient passés parmi nous il y a quelques semaines, environ un mois. Et donc, ils nous envoient leurs salutations fraternelles. Ils nous demandent de prier pour leur pays, afin que le Seigneur nous garde la liberté de réclamer son nom et qu'il protège son Église. Nous avons commencé à distribuer des portions alimentaires pour les réfugiés syriens à l'Église à travers une association chrétienne. Nous distribuons avec la somme précisée l'Évangile et nous parlons du Seigneur. Nous vous demandons de prier aussi pour ces gens qui viennent de toutes les religions, afin que le Seigneur sauve ceux qui sont à lui. Voilà, donc on peut continuer de les remettre dans nos prières. Eux qui sont au Liban, donc juste à côté de la Syrie, ils sont directement concernés par les événements qui se passent en Syrie. Nous pouvons aussi continuer à prier pour Jacques et Guylaine, qui sont normalement partis à Aix-les-Bains pour une cure. Pensons aussi à Raymond. Et puis je vous invite à vous lever pour vous lire quelques versets de bénédiction que je lis dans Colossiens au chapitre 3. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.